Alors, nous entrons dès ce soir, et nous le chanterons dans les vêpres, dans un temps liturgique qui nous est familier, non seulement parce que nous vivons chaque année, mais aussi parce qu'il a un fort pouvoir évocateur. L'Avent a d'ailleurs tellement façonné notre culture que la ville a déjà installé les illuminations de Noël. Les commerces parent leurs vitrines, ils sortent leurs catalogues, ils mettent en tête de gondole les truffes et les Pères Noël en chocolat. Et même si l'hiver tarde un peu à se montrer, c'est toute la société chez nous qui se prépare aux fêtes de fin d'année. Par un détournement tout à fait impensable il y a encore un demi-siècle, nous allons être pris dans une étrange confusion, dans un joyeux oxymore. Nous allons fêter en même temps deux contraires. Nous allons fêter la pauvreté de Dieu qui s'abaisse, qui s'humilie au point de se révéler dans un enfant vulnérable, et l'opulence d'une société ivre de consommation. Le pape François appelle ça la culture du déchet. Alors peut-être sommes-nous tellement habitués à cette confusion qu'on ne l'aperçoit plus tout à fait, mais peut-être est-elle devenue aussi tellement grotesque que, secrètement, notre cœur a soif de vivre Noël autrement. Noël autrement, c'est un slogan qui apparaît pour quelques actions qui sont menées dans l'Église. Alors faisons abstraction au moment de l'effervescence qui va bientôt nous aspirer, pour l'instant c'est encore tenu, et laissons plutôt résonner en nous les cantiques populaires qui réveilleront une joie plus discrète et plus profonde, comme on vient de le dire, une joie plus limpide, peut-être plus apaisante que la frénésie des centres commerciaux. Comme le dit le psaume 4, qu'on chante souvent au complice, « Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. » D'ailleurs, un bref coup d'œil sur l'histoire du temps de l'Avent pourrait souligner encore ce contraste. Nous allons ressortir dès ce soir à la messe anticipée les ornements violets. C'est dire à quel point l'Avent est d'abord apparu comme un temps de pénitence. Un temps de pénitence et de jeûne, presque au même titre que le carême. Alors, je vais citer Saint Grégoire de Tours, qui, au deuxième livre de son Histoire des Francs, rapporte qu'à la fin du 5e siècle, c'est vieux déjà, les chrétiens jeûnaient trois fois par semaine, depuis la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, jusqu'au 25 décembre. Les gens avaient appelé ça d'ailleurs le carême de la Saint-Martin. Et c'est ce qui a ensuite donné l'Avent. Alors, cette rigueur, jeûner trois fois par semaine, c'est le rythme du carême, cette rigueur s'est un peu adoucie au fil des siècles, et même au bout d'un moment, ce n'était plus exigé que des religieux et des clercs. Et puis même le jeûne s'est transformé en simple abstinence. Et aujourd'hui, on trouve ça vraiment chez les religieux, particulièrement chez les moines, ou même dans le Carmel. Il y a encore des Carmels qui font ce qu'on appelle le grand carême, c'est-à-dire que après la Pentecôte, ils recommencent l'exercice d'assaise, et encore plus à partir du 14 septembre, qui est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Il reste que dans les lectures des dimanches de l'Avent, les quatre dimanches de l'Avent, on va non seulement avoir le prêtre en violet, mais nous allons avoir des vrais appels à la conversion, comme pendant le carême. Demain, premier dimanche de l'Avent de l'année B, nous entendrons le prophète Isaïe s'adresser à Dieu au nom de tout le peuple et lui dire « Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. » Tonalité claire dès le début. Et puis dans le psaume demain, nous répéterons « Dieu, fais-nous revenir à toi ». C'est aussi une démarche de pénitence. De même, dans le dimanche 7 décembre, donc le deuxième dimanche de carême, Isaïe et Jean-Baptiste reprendront en chœur, l'un dans la première lecture et l'autre dans l'évangile, le refrain bien connu « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». préparer le chemin du Seigneur. On en parlera après. Le troisième dimanche de l'Avent, on aura encore Jean-Baptiste qui nous dira « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Deux dimanches de suite, on reprend la même thématique de rendre droit les chemins et comment ne pas y voir un temps de préparation, un temps pour préparer nos cœurs. Car un des mots hébreux pour désigner le péché, c'est « avon », « avon », c'est l'hébreu, qu'on peut traduire « tordu », incurvé, c'est-à-dire que le péché tord notre relation à Dieu et aux hommes, et du coup, rendre droit les sentiers signifie assez directement abandonner les virages de nos petites habitudes tordues et en même temps aplanir les ornières dans lesquelles nous aimons peut-être nous embourber. Mais, par rapport au carême, l'Avent est marqué par une note plus légère, une effervescence discrète et lumineuse, car ce temps célèbre l'espérance, la certitude que c'est Dieu qui vient lui-même marcher sur nos routes et redresser nos chemins. Je dis certitude parce que, au bout de la longue nuit, on voit déjà poindre une lumière, la lumière qui chassera les ténèbres. C'est le jour de Noël qu'on a la lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette espérance dans l'Avent, c'est d'abord une promesse, une certitude, et de cette certitude naît une attente à la fois tranquille et impatiente. Il y a les oxymores. C'est une attente qui est en fait un désir. Comme l'écrivait saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » On a ce désir de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui vient le combler. L'Avent est le temps du désir, un temps où le repentir n'est moins de la crainte extérieure, peut-être que c'est l'image qu'on a du carême, la crainte du châtiment. Dans l'Avent, ce n'est pas une crainte, c'est un désir de voir Dieu, et ce désir, qui est un attrait pour la lumière, on le chante dans plusieurs chants, Seigneur, venez, qu'à votre désir enfin se rouvrent les cieux. Je ne sais pas si vous connaissez Seigneur, venez. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Numéro 230. Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir, car toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Voilà, c'est comme si le désir de l'homme était tellement fort que Dieu était presque obligé de venir se révéler dans l'enfant Jésus. Alors je mets plein de nuances, parce que forcément Dieu est libre dans toutes ses actions. C'est pas notre désir qui le contraint, mais en tout cas ça met les hommes en marche. D'ailleurs, dès demain, dans le même texte que j'ai lu tout à l'heure, où Isaïe ressassait le péché, je vous ai caché les passages les plus savoureux. Il s'exclame dans un soupir, « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais !» Voilà. Ça montre bien que le péché ne produit pas ici la crainte d'un châtiment, mais le désir d'être sauvé, libéré. Pourquoi je cherche sur le côté? Oui, parce que dans les chants qu'on a dans le carnet pour l'Avent, il y a plusieurs fois ce thème du désir. Par exemple, le chant 263, « Vienne la rosée sur la terre ». Le Rorate Caeli, c'était un chant qui marquait fortement le carême. Et là, on a deux versions du Rorate Caeli. Numéro 48, « Cieux, répandez votre justice ». Et puis, « Vienne la rosée sur la terre ». C'est l'idée que nos désirs font hâter la venue du royaume. Dans le même texte, le prophète Isaïe va faire des reproches à Dieu. Je fais toujours un peu le contraste, je force le contraste avec le carême. Mais dans le carême, on sent un peu que Dieu nous fait des reproches. C'est très fort dans les, dans la Lamentation, comment ça s'appelle, les impropères, le Vendredi Saint, Dieu fait des reproches à son peuple. Et là, c'est le prophète qui fait des reproches à Dieu. Si les hommes ont oublié Dieu, c'est parce que Dieu s'est éloigné trop longtemps. Il reproche ainsi, « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi nos cœurs, pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre ? Ou encore, « Tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. » Le passage se termine de manière un peu plus apaisée. « Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. » Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Voilà. Vous voyez les trois mouvements du texte, des reproches, la reconnaissance du péché, et puis la confiance dans ce Dieu qui viendra, nous en sommes certains. Avec une grande confiance, le prophète reproche donc à Dieu de s'être éloigné de son peuple, et dans le même soupir, il désire ardemment son retour, sa venue. Sa venue, voilà ce don. Nous allons faire mémoire pendant 4 semaines. Voilà ce qui va nous tenir éveillés dans la nuit de ce monde, alors que les jours baissent et que la lueur de Noël peut encore nous sembler lointaine. Venu, avènement, avant, je ne vous fais pas une énième fois à l'étymologie, c'est tout tiré de la même racine latine adventus. Et comme vous le savez, dans l'Antiquité, ça désignait notamment l'entrée des empereurs dans une ville qu'ils venaient de prendre, de gagner, par exemple, ou dans leur ville impériale. Je vous épargne aussi l'homonymie qui réduirait l'Avent à une période avant Noël. Voilà, donc ça, au caté avec les enfants, c'est toujours amusant de commencer par ça. Avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben c'est avant, oui, mais non, c'est un peu plus que seulement avant. Et heureusement, un cantique que nous chanterons le jour de Noël a permis de conserver et de transmettre encore ce mot étrange d'avènement. Le cantique, vous le connaissez bien, numéro 91, « Il est né le divin enfant ». Chantons tous en avènement. Voilà. Ça permet, avec les enfants et avec tout le monde, de montrer que l'avant signifie l'avènement, la venue. Pour saisir ce qu'est l'avant, il faut bien comprendre que le mystère de l'avènement de Jésus-Christ est à la fois simple et triple. Il est simple parce que c'est le même Fils de Dieu qui vient, mais il est triple car il vient en 3 temps et de 3 manières. C'est là qu'il faut être attentif, parce que c'est ce qui peut vous habiter pendant tout l'Avent pour vivre ce temps dans toute sa plénitude. Saint Bernard dit « Dans le premier avènement, il vient en chair et infirmité. Dans le second, il vient en esprit et puissance. Dans le troisième, il vient en gloire et majesté. Et le second avènement est le moyen par lequel on passe du premier au troisième. » Tel est le mystère de l'Avent. Notre explication, on la trouve dans un auteur du XIIe siècle, Pierre de Blois. Il y a 3 événements du Seigneur. Le premier dans la chair, le second dans l'âme, le troisième dans le jugement. Le premier avènement eut lieu au milieu de la nuit, suivant les paroles de l'Évangile. Au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre, « Voici l'époux qui vient », vous savez, dans la parabole des vierges sages et des vierges folles. Ce premier avènement est déjà passé, car le Christ a été vu sur la terre et a conversé avec les hommes. Nous sommes actuellement dans le second avènement, pourvu que nous soyons tels qu'il puisse ainsi venir à nous. Car il a dit que si nous l'aimons, il viendra à nous et fera sa demeure en nous. Même c'est toute la Trinité qui viendra faire sa demeure en nous. Alors, dans ce second avènement, il y a une certaine incertitude, car seul l'Esprit de Dieu connaît ceux qui sont à Dieu. Mais ceux que le désir des choses célestes ravit hors d'eux-mêmes savent bien quand il vient. C'est encore Pierre de Blois qui parle. Cependant, comme explique Jésus à Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, il est très certain, cependant, ils ne savent pas d'où il vient ni où il va. Vous savez, c'est l'esprit, c'est comme le vent. On entend sa voix, mais on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc il y a une incertitude dans la seconde venue, qui est celle de notre quotidien, et qui est le pont entre la première et la dernière venue. Le premier avènement, reprend Pierre de Blois, fut donc humble et caché. Le second est mystérieux et plein d'amour. Le troisième sera éclatant et terrible. Il va le répéter plusieurs fois. Dans son premier avènement, le Christ a été jugé par les hommes avec injustice. Dans le second, il nous rend juste par sa grâce. Dans le dernier, il jugera toutes choses avec équité. Encore une fois, il est agneau dans le premier avènement, lion dans le dernier, et ami plein de tendresse dans le second. Ainsi, l'Église attend avec larmes et impatience la venue du Christ Rédempteur en son premier avènement, pendant l'Avent. Elle emprunte pour cela l'expression enflammée des prophètes, auxquels elle ajoute ses propres supplications. Dans la bouche de l'Église, les soupirs vers le Messie ne sont pas une pure commémoration des désirs de l'ancien peuple, ils ont une valeur réelle, une influence efficace sur le grand acte de générosité du Père Céleste qui nous a donné son Fils. L'Église aspire aussi vers le second avènement, qui est la suite du premier. Dans cet avènement, l'Église est l'épouse de celui qui vient, son épouse, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, « Jouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient ». L'Église demande à être visitée par son chef, par son époux. Et les expressions que l'Église emploie pour solliciter cet amoureux et invisible avènement sont les mêmes que celles par lesquelles elle sollicite la venue du Rédempteur dans la chair. Pendant l'Avent, on fait mémoire et on invoque ces trois venues par les mêmes termes. J'accélère cette partie. Et puis dans le troisième avènement, qui consommera toutes choses en ouvrant les portes de l'éternité, l'Église a recueilli cette dernière parole de l'époux à la fin du livre de l'Apocalypse. « Voilà que je viens bientôt. » Et du coup, elle dit au Seigneur, « Venez, Seigneur Jésus. » Et alors là, on va avoir un déferlement de cantiques qu'on connaît bien, avec ce verbe « venir ». « Viens, Seigneur, ne tarde plus. » Alors, soit dans sa version de Gouze qu'on n'a pas dans la paroisse. « Viens, Seigneur, ne tarde plus, en célébrant dans la nuit. Nous attendons ton retour. » Mais également, l'hymne comprendra tout à l'heure pour les vêpres, « Toi qui viens pour tout sauver, donc toi qui viens. Viens, Emmanuel, qui reprend en fait cantique en latin, « Veni, veni, Emmanuel. » Voilà, j'ai dit « Vienne la rosée ». Et puis, je termine par « Venez, divin Messie ». Quand il retentit dans l'Église, on sait qu'on commence à être plus très loin de Noël. J'ose pas trop vous chanter, parce que vous allez vous sentir déjà dans ce moment-là. Voilà. Donc l'Avent, c'est du 3 ans là. Ceci n'est pas une page de pub, même si la période s'y prête. 3 avants pour le prix d'un, on peut encore le faire d'une autre manière. J'espère que vous avez compris. Le premier avènement dans la chair, l'avènement, c'est-à-dire que Dieu vient nous visiter chaque jour par les sacrements, par notre prochain également. Et puis l'avènement du Christ à la fin des temps. Voilà, vous avez réussi à compter jusqu'à 3. Mais vous remarquerez peut-être qu'il y a comme une inversion chronologique dans la manière de vivre ces 3 avènements. C'était encore renforcé par le fait de déplacer la fête du Christ 3 juste avant le temps de l'Avent, donc c'était le dernier dimanche du temps ordinaire qui est devenu la solennité du Christ 3, parce que du coup on fait mémoire de la venue du Christ à la fin des temps, avec le texte de Matthieu 25 du jugement dernier. Donc on commence par la fin, puis ensuite on a un long temps qui se termine par le premier avènement, donc on termine par le début. Vous avez suivi ? Entre la venue dans la gloire et la venue dans la chair, il y a ainsi un vaste espace pour faire mémoire chaque jour de la venue quotidienne du Christ dans nos vies. Et ainsi, l'Avent est le temps de la vigilance à Dieu et à notre prochain, comme nous l'entendrons demain de la bouche de Jésus. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Dimanche prochain, 7 décembre, l'apôtre Pierre nous exhortera lui aussi à la vigilance. Mais bien aimé, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains prétendent. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on fait ici-bas, ne pourra échapper, etc., etc. Alors, une fois averti de ces trois venues du Christ, et puisqu'un homme averti en vaut deux, nous allons trouver, pendant le temps de l'Avent, deux personnages capitaux de l'Évangile. Ce sont en fait les deux personnages sur lesquels se concentre toute l'histoire d'Israël, tout le souvenir des promesses de Dieu à son peuple, et également toutes les espérances des hommes. Deux personnages, ça va aussi nous permettre de comprendre qu'il y a deux périodes assez distinctes dans l'Avent. Et retenez la date du 17 décembre, c'est le jour où tout bascule, le jour où une venue qui aurait pu nous sembler un peu lointaine, une vague promesse jamais réalisée, et aujourd'hui on peut prêter plus trop attention aux promesses non tenues, eh bien cette promesse-là commence à se réaliser très concrètement, le 17 décembre. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant le 17 décembre, l'Avent est donc marqué par la figure de Jean le Baptiste. Nous allons le retrouver le 7 décembre, au tout début de l'Évangile selon saint Marc. Saint Marc commence son évangile directement dans la prédication de saint Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi », etc., etc. Vous connaissez ce passage. Alors, drôle de bonhomme que ce Jean le Baptiste, il est le dernier des prophètes, le plus grand des prophètes, le plus grand des enfants des hommes, comme l'a appelé Jésus. Il résume à lui seul toute la vie et tous les messages des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il annonce un message, une parole, mais surtout il annonce l'imminence de la parole, Jésus, le Verbe de Dieu. Donc ça c'était le 7 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Le 14 décembre, troisième dimanche de l'Avent, on retrouvera encore Jean-Baptiste, mais cette fois-ci au tout début de l'évangile de Jean, après le fameux prologue, qui lui sera conservé pour la messe du jour de Noël. Le troisième dimanche de l'Avent, nous aurons saint Jean-Baptiste qui est mis à la question par les pharisiens. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il est venu comme témoin pour rendre témoignage à lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Vous voyez, c'est construit, en fait, comme un procès. Tout l'évangile de Jean est construit comme un procès. Enfin, on peut, du moins, l'interpréter comme ça. Et le premier témoin qui est convoqué à la barre, c'est Jean-Baptiste, et on lui pose des questions et on l'assaille de questions pour essayer de lui faire dire ce qu'il n'est pas. Lui il ne se laisse pas décontenancer par les questions, il sait parfaitement qui il est et qui il n'est pas, et il finit par faire une réponse un peu mystérieuse. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient. Et là, on est tout à fait dans ce que la tradition appelle la seconde venue, c'est-à-dire celui qui est au milieu de nous, qu'on voit moins encore que dans l'enfant de la crèche, qu'on voit moins que dans le jugement dernier, mais il est là au milieu de nous. Alors les Juifs étaient et sont encore dans l'attente du Messie, qui leur a été annoncé comme un grand prophète. C'est pour ça qu'ils parlent d'Élie, c'est pour ça qu'ils demandent si Jean-Baptiste est le prophète qui doit revenir. Parce qu'il y a un problème pour les Juifs, c'est le Messie, quand il doit revenir, comment le reconnaîtra-t-on? À quel signe et à quel moment? Alors, si on était dans l'année A, on aurait le deuxième dimanche de l'Avent, une lecture du livre d'Isaïe, bien connu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, etc. etc. Donc, ce Messie qui est annoncé par Isaïe, qui a reçu l'onction de l'Esprit du Seigneur, on l'aura quand même dans les lectures du troisième dimanche de l'Avent, avec le texte bien connu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et ce Messie, Isaïe nous dit, il est de la souche de Jessé. Cela nous amène au deuxième personnage qui va marquer la deuxième partie du temps de l'Avent, donc à partir du 17 décembre. Alors c'est un peu particulier, c'est la même date chaque année. Dans l'Avent, il y a une période, la première période dépend des dimanches, et puis la fin de l'Avent, du 17 au 23 décembre, ça peut commencer différents jours de la semaine, c'est mobile. Du coup, le temps de l'Avent n'a pas toujours autant de jours. C'est une durée variable, à quelques jours près. Voilà, le quatrième dimanche de l'Avent, qui tombe toujours pendant cette fameuse semaine du 17 au 23, nous lirons le récit de l'Annonciation. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Voilà. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Marie, qui elle aussi est de la souche de Jessé et qui était le père de David, elle est elle aussi, comme Jean-Baptiste, un modèle de l'attente du Messie. Quand l'ange paraît, elle est prête, elle donne son fiat, elle a été préparée par Dieu pour être la mère du Sauveur, et elle est la première sauvée. Je vous ai dit que la semaine du 17 au 23 était un peu particulière. Vous vous demandez peut-être encore en quoi elle est particulière. En fait, dans la liturgie des heures, elle est attendue avec impatience parce que les antiennes du Magnificat sont très connues. Donc les religieux et les prêtres qui prient la liturgie des heures connaissent ces antiennes. Il s'agit des antiennes en haut. On les appelle les grandes eaux, parce qu'elles commencent tous par un vocatif, une apostrophe au Christ qui va se manifester très bientôt. Alors, ô sagesse, ô Adonai, ô fils de la race de Jessé, ô clé de la cité de David, ô Orient, ô roi des nations, et enfin, ô Emmanuel. Sept titres messianiques qui désignent le Christ et qui hâte sa venue. Enfin, forcément, il faut avoir participé aux vêpres pour les avoir entendues. Je vais essayer d'en chanter une pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Oh, sapientia, quae ex ore altissimi prodisti, attingens a fineusque ad finem fortiter, sua viter disponensque omnia, veni ad occendum nos, viam prudentia. Elle commence toute par O, avec les titres que j'ai énumérés, et elles ont toutes à peu près la même mélodie. Si je commence la deuxième, c'est « Oh, Adonai, encore la troisième, le 19 décembre. « Oradix Jesse, quista sin signum populorum » etc. Donc il y a en fait une carte assez, assez particulière au début. « Oh !» On est un peu comme dans le « Rorate ».«
Rorate !»
On est tout de suite, on monte tout de suite assez vite. Sans passer par les degrés, et donc on a l'impression d'être assez vite au ciel. Vous êtes très contente de les avoir entendus, vous vous demandez peut-être juste ce qu'elles signifient. Du coup, il faut que je retrouve la traduction.
J'espère qu'elle soit fidèle d'ailleurs dans le bavier.
Où c'est qu'on va les trouver? Par exemple, celle du 23 décembre. Je commence par la fin. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Oui, effectivement, c'est un peu simplifié. Mais le sens est là. Qu'est-ce qu'on a le
17.
Celle du 17. Ça va tomber quel jour? Le 20 décembre. Le 19, là. Ô rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens, Seigneur, viens nous sauver. Traduction inspirée des antiennes en grandes eaux. En fait, ces antiennes, elles sont regroupées, elles ont été mises là dans la semaine du 17 au 23. En fait, il y a d'autres antiennes en haut qui sont réparties dans la liturgie. Au long de l'année, mais celles-là ont une autre particularité, c'est que si on prend la première lettre du mot latin de chaque titulature du Christ dont j'ai parlé, on forme, à l'envers d'ailleurs, une phrase latine, c'est « Ero cras ». Ça veut dire « Demain, je serai ». C'est pour dire que les liturgistes, quand ils ont choisi ces antiennes et les mots, ils ne l'ont pas fait au hasard. C'est vraiment dans la dimension de l'avènement, de l'avant, parce qu'on a, qu'on appelle ça une acrostiche, je crois, qui signifie quelque chose. Donc, ce n'est pas tout à fait laissé au hasard. Je parlais du roraté.
Rorate celide super et nubes plurantius tum.
Ce qui signifie « Ciel répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, terre, ouvre-toi, que germe le sauveur. » En passant, puisqu'on est dans le latin, j'ai oublié de signaler la particularité du troisième dimanche de l'Avent, que vous avez déjà entendu parler. Et alors là, ça va vous faire oublier tout à fait ce que j'ai dit au début sur la dimension pénitentielle du carême. Ce dimanche-là, on prend les vêtements violets, les ornements violets, et on rajoute une touche de fête, on rajoute une touche de blanc. Le violet plus le blanc donne du rose. Et donc le troisième dimanche de l'Avent est marqué par ces ornements roses. Je ne sais pas si on en a cinq. Et on l'appelle le dimanche de Gaudete, car l'antienne d'ouverture de la messe, c'est toujours la même. Un passage de la lettre aux Philippiens. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Gaudete. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le dimanche de la joie. Et du coup, on essaie de le marquer un petit peu, non seulement dans les ornements liturgiques, mais également dans les tonalités des pièces, des chants de la messe. Alors, puisqu'on en est aux particularités liturgiques, je termine sur l'avant, en n'oubliant pas de signaler qu'on s'abstient pendant ces environ 4 semaines de chanter le gloire à Dieu. Voilà, parce que ce gloire à Dieu, on le laissera éclater avec encore plus de clarté dans la nuit de Noël. C'est le chant des anges quand ils viennent visiter les bergers pendant la messe, à la fin de l'évangile de la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 4 dimanches sans gloire à Dieu. On aura quand même quelques occasions de le chanter, notamment parce que le 8 décembre tombe pendant l'Avent, le 8 décembre, la solennité de l'Immaculée Conception, comme si une solennité ressort le Gloria, en fait, petite parenthèse dans le temps de l'Avent. Voilà. L'Immaculée Conception, du coup, c'est encore une apparition de, enfin, apparition de la Vierge Marie. C'est encore. Voilà, je disais que Marie est un personnage important de l'Avent, mais c'est un autre signe de ça. Autre distinction par rapport au carême, pendant l'Avent, on continue de chanter l'Alléluia. Pendant le carême, on ne chante plus l'Alléluia, on chante des acclamations à l'Évangile, mais qui ne sont pas l'Alléluia, alors que pendant l'Avent, il y a encore l'Alléluia. L'Avent est donc le temps du désir, un désir grandissant et de plus en plus impérieux, qui pousse les âmes à se tourner vers Dieu, même si finalement la venue de Dieu va être une drôle de surprise qui déjouera les pronostics les plus avisés et les prophètes les plus sagaces. Et parmi ces surprises, la première, en tout cas en ce qui concerne la liturgie, c'est que le mystère de la naissance de Jésus est si vaste, si profond, tellement incommensurable, qu'on est obligé d'en faire trois messes différentes. Voilà, tout à l'heure, Lubo me tendait la perche pour parler du temps, et effectivement, pendant le temps de Noël, on va complètement distendre notre échelle habituelle du temps, notamment, alors, deux choses. La première, c'est que pour le jour de Noël, pour célébrer le mystère de l'incarnation, il y a trois messes différentes. Les trois messes basses d'Alphonse Daudet, c'est bien le conte. Alors, la messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Alors, quand je dis que ce sont trois messes différentes, c'est pas seulement parce que on dit plus de messes, parce qu'il y a plus de gens encore qui viennent à la messe en cette occasion. D'ailleurs, petit chiffre au passage, sur le doyenné, il y aura 38 messes en l'espace de 24 heures. Voilà, ça fait beaucoup de travail. Alors, des messes distinctes, ce sont des lectures distinctes, des antiennes distinctes. Et les évangiles, par exemple, alors, l'histoire est tellement belle que la nuit de Noël, on racontera la naissance de Jésus depuis l'édit de l'empereur Auguste, qui fait que Marie et Joseph se mettent en route vers Bethléem, jusqu'au chant des anges devant les bergers. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Donc ça, c'est la messe de la nuit. À l'aurore, on reprend le récit de l'évangile de Luc au moment où les bergers vont visiter Jésus à la crèche, donc l'adoration des bergers. Et du coup, ça donne la messe de l'aurore. On l'a fait à l'aurore. Souvent, les gens ne sont pas réveillés, donc ça fait des assemblées beaucoup plus paisibles, beaucoup plus tranquilles. Et ça convient bien à ce mystère, en fait, parce qu'on imagine bien à l'aurore, les bergers, même avec un petit peu d'agitation du troupeau, on est à la fin de la nuit, il y a toujours un calme qui règne à ce moment-là. Et donc, première messe, la nuit de Noël, deuxième messe, la messe de l'aurore, troisième messe, le jour de Noël. Et cette fois-ci, l'évangile, c'est. Alors là, on prend de la hauteur. Quelque part, on laisse l'enfant Jésus dans la crèche et on fait comment on appelle ça, pas une contre-plongée, mais on prend de la hauteur avec l'évangéliste Jean, et qui nous livre ce qu'il y a à voir finalement dans l'enfant de la crèche. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc c'est le prologue de l'évangile de Jean. Et tout de suite, du coup, après avoir, par notre vue, par nos sens, quasiment touché le Fils de Dieu qui s'est fait chair, on est invité à pénétrer théologiquement le sens de cet événement. Bon, en fait, j'ai pas trop envie ni le temps d'entrer dans les détails magnifiques de tous ces textes de Noël. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas trop le moment de chanter déjà Noël, mais pour l'instant, il faut vivre l'Avent. Mais je vais rajouter quelques particularités, notamment au niveau du calendrier. Donc, je disais que l'Église, la liturgie, si on personnifie la liturgie distend le temps en ce moment de Noël, avec ses trois messes pour le jour de Noël. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'octave de Noël. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas du jour de Noël pour célébrer le mystère de Noël, mystère de la nativité, on prend carrément 8 jours. Et pendant 8 jours, on vit au rythme du même mystère de la nativité. Alors ça se voit, la particularité la plus frappante, c'est qu'il y a le Gloria à la messe tous les jours. Donc, comme le dimanche, en fait. Tous les jours sont solennisés. Pendant 8 jours, on vit un seul jour. C'est comme un long dimanche de fiance, un long dimanche de naissance. Et puis, du coup, sur le calendrier, je vous serai peut-être encore plus surpris si je vous apprends que le temps de Noël dure, lui aussi, 40 jours. 40 jours, ça vous rappelle autre chose. Car, en fait, on a en fait Noël depuis le... Enfin, le temps de Noël dure du 25 décembre au 2 février. Peut-être un peu moins aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs la coutume c'est de désinstaller la crèche seulement le 2 février. Alors, on le fait aussi après l'épiphanie en se disant que ça y est, les romages sont passés, donc l'histoire est bouclée, mais traditionnellement c'était plus le 2 février. Alors le temps de Noël est marqué fortement, surtout en ses débuts, donc jusqu'à l'épiphanie, puisque le dimanche qui suit le jour de Noël, nous fêtons la Sainte Famille. Alors cette année, il se trouve que c'est aussi le jour de la fête des Saints Innocents, le 28 décembre. Puis, 8 jours après Noël, la fin de l'octave de Noël, on fête Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est le premier de l'an. L'Épiphanie, en France, on la fête le dimanche après le 1er janvier. Alors qu'en Italie, c'est resté le 6 janvier. Sur le calendrier, c'est l'Épiphanie 6 janvier. Donc en Italie, parce que oui, en France, on l'a déplacé au dimanche pour être sûr que les chrétiens puissent fêter l'Épiphanie. Et puis, il y a aussi la fête du baptême du Seigneur, le dimanche après l'Épiphanie. Voilà bien un marathon liturgique pour faire mémoire de tant d'événements que nous connaissons bien et les rendre présents et efficaces dans notre vie. Il y aura encore beaucoup à dire sur la liturgie, la spiritualité du temps de Noël. Peut-être que pour terminer, on peut tourner nos regards, spirituellement, parce qu'il n'y en a pas encore, tourner nos regards vers la crèche. La crèche, vous savez, on l'attribue à la première réalisation d'une crèche vivante à Saint François d'Assise, à Greccio, en Italie, dans la nuit de Noël 1223. Et c'est pas de la liturgie, c'est paraliturgique, même si le soir de Noël, on ira déposer l'enfant Jésus dans la crèche. Cette crèche va accompagner toute notre préparation à Noël, tout le temps de l'Avent. Alors, aussi la couronne de l'Avent qui marque un peu plus un rythme dans le temps. La crèche, on se prépare, comme on entendait tout à l'heure, non seulement intellectuellement, mais également par la vue, voir le mystère. Et c'est quand même la moindre des choses, puisque dans l'incarnation, Dieu invisible s'est rendu visible. Donc c'est quand même bien la moindre des choses qu'on puisse nous aussi exercer notre vue sur un tel prodige.